Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Bienvenue à ce magazine de droits et devoirs. La problématique des régimes politiques contemporains, cas du régime semi-présidentiel congolais, c'est le thème de droits et devoirs d'aujourd'hui. Il est politique, juridique et scientifique. Voilà pourquoi nous recevons séparément deux scientifiques et doctrinaires du droit pour décortiquer ce thème, l'analyser et en déceler les failles et acquis. Connaissez-vous au moins les régimes politiques du temps moderne et celui qui régit la RDC? Savez-vous comment fonctionne est-il? Vous avez le droit d'en savoir plus tout à l'heure avec les députés nationaux Francis Kalombo, intervenant par téléphone à partir de l'Europe, et Ambroise Kamukuni que nous recevons sur place.
L'invité.
Nous commençons avec le député Francis Kalombo. Francis Kalombo, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons en tant que scientifique. Vous avez publié un livre sur les régimes politiques congolais et français. Vous êtes député national élu en 2006 et réélu en 2011. Vous êtes en même temps diplômé en sciences politiques et en droit.
Merci beaucoup. Je précise que j'ai eu un diplôme en sciences politiques à l'université pédagogique de Kinshasa et puis à l'ULK en ce qui concerne le droit. Je reste un scientifique. Je suis chef des travaux à l'université pédagogique de Kinshasa, donc je suis un enseignant.
La toute première question que nous vous posons, c'est quoi d'abord un régime politique?
Merci. Je crois que pour répondre à votre question, il serait souhaitable pour nos auditeurs qui ne sont pas des scientifiques d'ouvrir une sorte de parenthèse pour leur expliquer, pour bien définir. Il faut maîtriser cette notion qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs fut théorisée par Aristote. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et au deuxième siècle, déjà avant Jésus-Christ, Polybère et Trilibé et les philosophes politiques vont à leur tour exploiter l'idée de la séparation des fonctions de l'État. C'est dans ce cadre-là, la contribution de John Locke sera décisive avec ces deux traités de gouvernement civil. Bon, en quelques lignes, pour définir le régime politique, il faut qu'il y ait de la séparation. On observe le fonctionnement des deux pouvoirs législatifs et l'autre, mais on tient compte aussi des partis politiques qui existent, de leur fonctionnement, demeure de la tradition démocratique du pays. Sans ce mal-là qu'on dit, nous sommes dans tel type de régime ou tel type de régime.
Et nous sommes dans quel type de régime politique?
Bah, écoutez, en République démocratique du Congo, si nous devons nous en tenir aux prescrits de la Constitution, nous allons dire que nous sommes dans un régime semi-présidentiel que d'aucuns qualifient de parlementariste rationalisé, ou alors que le professeur Jane appelle le présidentialisme parlementaire. Donc oui, c'est un régime mixte. Et qui a emprunté certaines dispositions du système présidentiel, comme aux États-Unis, c'est-à-dire le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il est au même moment, pour différencier le régime présidentiel avec le régime semi-présidentiel, le président est au même moment chef de l'exécutif. Et nous avons un premier ministre qui, lui, on a emprunté certaines méthodes de système parlementaire, qui est ici de la majorité parlementaire, et en ce moment-là, il est le chef du gouvernement. Et je pense que dans le régime semi-présidentiel, on prend aussi quelque chose du régime qu'on appelle consulaire, à savoir, on fait appel au peuple avec ce système de référendum. Okay. Et là, est-ce dans le fonctionnement? Nous sommes dans le régime semi-présidentiel ou pas? C'est là où le professeur Diallo, tout comme le professeur, ils sont nombreux qui débattent là-dessus. Je peux vous citer par exemple ce que le professeur Kamukuni écrit dans son livre de droit constitutionnel congolais. Je le cite, le professeur Kamukuni dit ceci: tel qu'il fonctionne, le régime voulu semi-présidentiel par les constituants congolais est complètement déformé par la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. À défaut d'avoir une responsabilité réelle devant l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement répond plutôt de celle-ci devant les chefs de l'État, au point qu'il y a lieu de se demander si nous trouvons devant un exemple type d'un régime présidentialiste à défaut d'être un régime parlementaire dualiste aujourd'hui disparu.
Nous rappelons que c'est une émission qui joue un rôle pédagogique. Vous êtes enseignant nous parlons de la problématique des régimes politiques contemporains, avec comme toile de fond le régime semi-présidentiel congolais. Vous avez parlé des régimes politiques congolais et français. Nous en avons d'abord combien dans le monde contemporain?
Dans le monde contemporain, je crois qu'il y a plusieurs classifications du régime politique. Et dans ces plusieurs classifications, nous avons la confusion du pouvoir et puis la séparation du pouvoir. Et ici, c'est mieux encore d'expliquer à ceux qui nous suivent d'aller dans la démocratie. Prenons les régimes qui sont démocratiques. Vous avez le régime présidentiel, l'exemple type des États-Unis d'Amérique. Vous avez le régime parlementaire avec ses plusieurs variantes. Vous avez la monarchie, l'exemple de la Belgique ou l'exemple de la Grande-Bretagne. Vous avez d'autres exemples parlementaires comme en Allemagne, comme en Israël, où vous avez un président de la République qui règne, mais qui n'exerce aucun pouvoir. Donc, tout comme vous avez le roi ou la reine en Angleterre. Et puis, vous avez les régimes semi-présidentiels. C'est le cas ici en République démocratique du Congo.
Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'un régime politique dans son fonctionnement?
C'est des avantages démocratiques que peut amener un régime politique. Et un régime politique, comme on l'a défini, si le pouvoir d'abord, vous parlez d'un régime politique, il faut être sûr qu'il y a séparation des pouvoirs. Et lorsque cette séparation des pouvoirs fonctionne réellement, on a vu aux États-Unis, le pouvoir exécutif, à savoir le président de la République, prend un décret, mais la justice, qui est un pouvoir judiciaire, a bloqué la mise en disposition des cet arrêt. Voilà la force même de la démocratie. Voilà la vraie séparation des pouvoirs. Voilà comment les gens doivent savoir. Donc le pouvoir judiciaire est là pour réguler.
Oui, maintenant, revenons à notre pays. Comment trouvez-vous le fonctionnement du régime semi-présidentiel actuel congolais? Quelles en sont les failles et les acquis?
Je crois que les acquis, c'était ça nous a fait sortir de la crise que nous avons commise. Crise institutionnelle grave qui nous a amené au risque même de pouvoir balkaniser. Le pays était morcelé. Et cette constitution a un avantage, c'est de nous avoir amené la paix, la tranquillité pendant un certain temps.
Honorable Francis Kalombo, maintenant, s'il faut nous résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir des régimes politiques comme définition et puis comme essentiel concernant le régime semi-présidentiel congolais pour la meilleure compréhension de nos auditeurs?
Pour la meilleure compréhension de nos auditeurs, je pense que pour en ce qui concerne le régime politique, c'est qu'il faut d'abord avoir la séparation de pouvoirs. Lorsque les trois pouvoirs sont séparés, on observe
le trois pouvoirs exécutif. Le trois pouvoirs, c'est
le trois pouvoirs, à savoir
le pouvoir exécutif,
le pouvoir exécutif,
judiciaire,
le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire. Oui.
Lorsqu'on a la séparation de pouvoirs, à ce moment-là, on observe les deux pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est leur rapport. Comment ces deux là fonctionne et à ce moment-là ça nous permet de déterminer dans quel régime politique nous sommes. Si nous regardons comment fonctionnent les régimes semi-présidentiels en République démocratique du Congo, c'est comme ça que le professeur Kamukuni dit que nous ne sommes pas dans un régime semi-présidentiel parce que le ministre ne répond pas du Parlement, au contraire, il répond du président de la République. Donc à ce moment-là, nous revenons dans un régime et il va même plus loin pour dire présidentialiste. Donc, c'est-à-dire, nous sommes même pas, c'est une sorte de dérive du régime présidentiel, puisque nous avons un régime présidentiel aux États-Unis où les trois pouvoirs fonctionnent librement. Ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Donc, il faut regarder ces deux régimes et ces deux institutions, comment ces deux institutions fonctionnent, et puisqu'ils sont séparés, c'est à ce moment-là qu'on définit. Et nous, nous avons opté sur le texte un régime semi-présidentiel, qui est un régime avec deux têtes à l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le chef de l'exécutif, c'est-à-dire, il est le patron du pouvoir exécutif, mais au même moment, le premier ministre est le chef du gouvernement. Et le président ne répond pas devant l'Assemblée nationale, mais c'est le premier ministre. Donc, c'est un régime mixte. On a pris les avantages qu'on trouve dans l'élection, dans le régime présidentiel, à savoir le président est élu au suffrage universel direct, pas partout, parce qu'aux États-Unis, c'est indirect, à leur manière, mais dans la plupart des pays où il y a un régime présidentiel, le président est élu directement par le peuple avec un programme qui sillonne pour pouvoir adopter son programme. Et vous avez, de l'autre côté, les députés qui constituent une majorité. Et là, on a emprunté certains avantages qu'on trouve dans un régime parlementaire. Et les régimes parlementaires, c'est les régimes où il y a un président de la République qui règne, mais qui ne gouverne pas, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et que, de l'autre côté, vous avez un premier ministre qui, lui, répond devant le Parlement. Donc, on a pris cet aspect, on a combiné avec le régime présidentiel et on a sorti ces régimes hybrides comme la appelle le professeur Tumbaloaba, ces régimes hybrides que nous avons adoptés en République démocratique du Congo. Donc, en mélangeant les deux, on arrive à ce que nous avons choisi au Congo pour gérer le pays. C'est un des meilleurs régimes qui peut exister aussi, mais tout dépend de l'application de ces régimes.
Nous vous recevons en tant que scientifique et doctrinaire, et vous avez une expertise en la matière pour avoir publié le livre intitulé « Les régimes politiques congolais et français ». Et nous débattons de la problématique des régimes politiques contemporains, le régime semi-présidentiel congolais, ses inconvénients, ses avantages, ses acquis ou ses failles. Comment expliquez-vous en tant que scientifique que le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, il préside même le conseil des ministres, mais lorsqu'il faut en répondre devant le Parlement, c'est le premier ministre qui engage le gouvernement. Alors qu'il endosse les décisions du gouvernement, devant le Parlement, il en devient irresponsable.
Bien sûr, c'est ça les textes que nous avons adoptés. C'est comme ça que ça fonctionne, un régime semi-présidentiel même en France. Et le président de la République a, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, a même obtenu le pouvoir de s'adresser aux membres du Parlement réunis en congrès. Donc il peut même s'adresser, mais cela n'amène pas un débat. Voilà pourquoi lorsque le président de la République vient s'adresser, il parle, il donne son discours, et puis il parle l'état de la nation, et puis il n'y a pas un débat. Donc lui n'a pas à débattre avec le pouvoir, puisque lui, il a été élu par la population congolaise. Donc il est le patron selon les textes, et les textes qui ont voulu à ce que le président de la République puisse être le chef de l'exécutif, parce qu'il est élu sur base d'un programme, et il est le plus grand élu de la République. Il représente la nation, et c'est comme ça. Mais le premier ministre, qui lui n'est pas un élu, voilà la différence. Dans cet ensemble-là, les gens qui dirigent, seul le président de la République est obligé d'être élu. Par contre, les ministres peuvent ne pas être des élus. Et là aussi, il faut souligner, le président de la République nomme le premier ministre, mais il n'a pas le pouvoir de le démettre. C'est ça qui fait aussi la force d'un premier ministre. Le président n'a pas le pouvoir de le démettre. Mais lorsque le président a sa majorité, il peut le pousser à la démission.
Est-ce que le modèle du régime politique congolais fonctionne de la même manière que le modèle français, tel que vous l'avez défini?
Non, dans le fonctionnement, c'est des jours et la nuit. Et je pense que cela dépend aussi de la culture politique, de la classe politique que nous avons. Je suis désolé, mais ici, nous parlons science. Que les gens me comprennent. C'est un constat scientifique que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, dans le fonctionnement, nous voyons ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous avez un premier ministre, un président de la République poussé à ne pas se représenter. Il a accepté, il a laissé d'autres y aller. Même pas par la loi, poussé par sa base, par le sondage. Donc, ça aussi, c'est la culture que le professeur Diallo parle. Il faut tenir compte de la culture démocratique, du mœurs, de la tradition démocratique que nous avons dans notre pays.
Francis Kalombo, nous rappelons que vous êtes député national congolais, élu en 2006 et réélu en 2011. Vous êtes diplômé en sciences politiques et en droit, et nous vous avons reçu en tant que scientifique et doctrinaire pour avoir d'abord dans votre actif publié le livre « Les régimes politiques congolais et français ». Avec vous, nous avons analysé la problématique des régimes politiques contemporains comme notre thème principal et en toile de fond le régime semi-présidentiel congolais, ses acquis et ses failles. Merci d'avoir accepté notre invitation pour expliquer à nos auditeurs ces régimes politiques.
Merci beaucoup.
L'invité. À présent, sur le même sujet, nous recevons le constitutionnaliste Ambroise Kamukuni.
Professeur Ambroise Kamukuni, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons en tant que scientifique et doctrinaire du droit constitutionnel. Vous avez publié plusieurs ouvrages en rapport avec le droit. C'est en cette qualité que nous vous recevons. Vous êtes enseignant du droit constitutionnel. Vous êtes en même temps bâtonnier. Y a-t-il encore autre chose qu'on doit ajouter, qu'on a oublié?
Non. Quand vous me présentez déjà comme professeur de droit, c'est amplement suffisant, mais j'aimerais quand même affirmer ici que je suis chef du département de droit public interne de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, et j'enseigne effectivement le droit public dans plusieurs universités du pays, à peu près 12, et dans quelques universités étrangères. C'est important de le savoir.
Un petit mot sur Francis Kalombo, qui intervient aussi dans cette émission sur le régime politique et qui a publié sur le régime politique congolais et français.
Oui, l'ouvrage de l'honorable Kalombo sur le régime français et congolais qu'il a comparé, c'est un extrait de son mémoire de licence à l'Université libre de Kinshasa, les mémoires que nous avons dirigées. Nous avons trouvé en lui quelqu'un qui réfléchit, qui a pris le temps d'étudier, de lire et qui a eu à se défendre valablement. Je pense qu'il est en mesure d'analyser ces cas avec beaucoup de compétences. C'est tout ce que je peux dire.
Et nous allons parler avec vous des régimes politiques contemporains et plus particulièrement le régime semi-présidentiel congolais. Qu'est-ce qu'on entend par un régime politique?
De toute façon, un régime politique peut être défini comme un système de gouvernement gouvernement qui implique le fonctionnement des institutions à travers leurs rapports respectifs. Et dans chaque pays, vous voyez qu'il y a un pays qui a des pouvoirs classiques de l'État. Nous retenons parmi les pouvoirs classiques, il y a le pouvoir exécutif où on rencontre le chef de l'État et généralement le gouvernement. Il y a le pouvoir législatif où on rencontre le Parlement, qui peut être monocaméral quand il y a une seule chambre, ou bicaméral quand il y a deux chambres. Et il y a le pouvoir judiciaire. En général, ce sont des rapports horizontaux entre les institutions qui représentent l'exécutif, qui représentent les législatifs, dans leurs relations, dans le fonctionnement des institutions qu'on trouve le régime politique. Dans le monde contemporain aujourd'hui, il y a deux régimes principaux. Il y a le régime présidentiel et il y a le régime parlementaire. Les autres sont des combinaisons entre ces deux régimes. Alors, le régime présidentiel est généralement qualifié de régime de séparation, régime du pouvoir. Tandis que le régime parlementaire, qui est aussi un régime de séparation du pouvoir, mais on l'appelle généralement un régime de collaboration du pouvoir. Et bien entendu, et je peux expliquer comment, parce que dans un régime présidentiel, tous les organes, tous les animateurs des principales institutions politiques, notamment le législatif et l'exécutif, restent en place jusqu'à la fin de leur mandat. Tandis que le régime parlementaire, on l'appelle le régime de collaboration du pouvoir parce que vous constatez, dans les traits principaux, le régime parlementaire est caractérisé par, d'abord, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. C'est un poids qui rencontre un contrepoids, c'est-à-dire la possibilité de dissolution du Parlement par l'exécutif. Et on dit que c'est dans ce régime, il y a un poids et un contrepoids. Mais dans ce régime également, il y a collaboration du pouvoir. Pourquoi? Parce que le Parlement, si vous voulez bien, le gouvernement est l'émanation du Parlement. C'est-à-dire le parti majoritaire ou la coalition majoritaire au Parlement, c'est ce parti-là ou cette coalition qui désigne le gouvernement. On retrouve par exemple le chef du parti majoritaire au Parlement, c'est lui-même qui est aussi le Premier ministre, comme l'exemple britannique. Il est donc non seulement chef du pouvoir exécutif, bien entendu comme leader, et il est aussi Premier ministre. Donc lui, quand il a des lois pour faire respecter son programme, il demande à ses partisans qui sont au gouvernement et au Parlement, je vous l'ai dit, et cela prenne des lois conséquentes. Mais lorsque, par exemple, il y a une sorte de dissension entre les membres de la coalition majoritaire au Parlement et leur Premier ministre, leur leader, ce Premier ministre arrive parfois à dissoudre son propre Parlement pour pouvoir regagner la confiance de la base. Et c'est ça qu'on appelle dissolution. Donc il y a cette collaboration-là qui fait que ici, on appelle séparation de pouvoir, de l'autre côté, on appelle collaboration de pouvoir. Et comme il y a un élément contre deux, j'ai toujours préféré que pour adoucir les mœurs politiques, on pouvait appeler notre système un régime semi-parlementaire. Parce que dans notre système de gouvernement, que ce soit le régime parlementaire, le régime dit présidentiel ou les régimes encore sui generis ou les régimes, il y a plusieurs combinaisons. Le chef de l'État dans le système congolais a toujours paru comme la clé de voûte de l'ensemble du système politique. Que ce soit dans le régime parlementaire ou vous connaissez les difficultés qu'il y a eu entre Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba. Le président révoque le Premier ministre révoque le président. Et la confusion vient du fait que les acteurs politiques congolais n'ont jamais voulu fonctionner comme les textes le prévoient. Et dans notre système, quand vous lisez un des livres que j'ai dû écrire, le droit constitutionnel congolais, et j'affirme, c'est vrai, c'est vérifiable, il y a des caractéristiques qui apparaissent, c'est qu'à cause de la prééminence du chef de l'État, il en est entraîné que le chef de l'État, parce qu'il est prééminent, il a tendance à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. S'il ne les exerce pas lui-même directement, il fait exercer par un seul coup de fil ou par les choses changent. Et cela entraîne qu'il y a un certain affaiblissement du Parlement qui apparaît dans notre système comme étant une sorte de chambre d'enregistrement. Et bien entendu, nous devrons qu'on fait l'expérience pour ce qui se passe maintenant. Il y a coïncidence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. C'est ainsi qu'il n'y a pas moyen de voir très vite les couacs qu'il y a. Mais le jour où on a la possibilité d'avoir une sorte de cohabitation, c'est-à-dire la majorité présidentielle ne correspond pas à la majorité parlementaire, c'est alors qu'on verra vraiment le fonctionnement du système. Parce qu'en ce moment-là, non seulement le chef de l'État, bien entendu, est au sommet avec la concentration de pouvoir, le Parlement allemand en est affaibli et l'exécutif s'efforce à inféoder le judiciaire. De telle sorte que dans un tel système, parce qu'aujourd'hui, le principe de séparation du pouvoir n'a plus la même signification qu'avant, quand il avait commencé. Quand il avait commencé, du temps de Montesquieu, chaque pouvoir exécutif était indépendant de l'autre. Mais même dans le système présidentiel, y compris le système américain, il y a des interférences du pouvoir exécutif qui intervient au Parlement américain, où on parle par exemple du parlementarisme des couloirs, où l'exécutif envoie ses délégués dans les couloirs du Parlement pour attirer les législatifs dans leur sens.
Mais c'est une sorte de lobbying.
Une sorte de lobbying, effectivement. Mmh. Mais chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Ou bien le chef de l'État s'empare de ses pouvoirs de lui-même, il commence à les exercer, ou en tout cas, il les prive aux autres organes.
Bon, maintenant, revenons à ces régimes semi-présidentiels. Comment doit-il fonctionner? Comment on arrive à déterminer ces régimes?
En principe, dans ce genre de régime, le plus grand danger, c'est que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire, il a une popularité beaucoup plus grande, une légitimité beaucoup plus étendue, parce que sa circonscription électorale, c'est le territoire national. D'un coup, il se considère, et c'est vrai, c'est le plus légitime des élus. Tandis que le Parlement est composé de deux chambres. Il y a la chambre haute et la chambre basse. Souvent, quand on parle de la chambre haute, les gens ont tendance à penser que c'est l'Assemblée nationale. Non, c'est le contraire. C'est le Sénat.
Nous voyons dans la Constitution qui consacre l'irresponsabilité du chef de l'État devant le Parlement. C'est le Premier ministre et le gouvernement qui répondent de leurs actes devant le Parlement. Mais le chef de l'État, il peut présider le Conseil des ministres. Il endosse les décisions prises au Conseil des ministres.
Voilà. En principe, dans un tel régime, le chef de l'État, dans un régime qu'on appelle semi-présidentiel, est irresponsable. Sur le plan politique, le Parlement ne peut pas interpeller le chef de l'État. Et, par conséquent, dans la prise de décision, le chef de l'État intervient en tant que garant de la nation, celui qui possède le cachet officiel du pays. Le chef de l'État peut aujourd'hui répondre de la responsabilité pénale en cas d'infraction. Il y a plusieurs infractions qui sont prévues dans la Constitution, mais sur le plan politique, il n'y a rien à faire. Le chef de l'État échappe. Mais le chef de l'État, en principe, il se retranche derrière le gouvernement pour la détermination de la politique du gouvernement, par exemple. Lui, il y contribue, mais ce n'est pas lui qui fait la politique du gouvernement. C'est le gouvernement lui-même. Voilà pourquoi le gouvernement répond. Mais vous voyez de temps en temps que le chef de l'État apparaît en premier ministre. En principe, ça ne devait pas être comme ça. Et dans un système où il y a coïncidence de la majorité, le programme du gouvernement, c'est au fait le programme du chef de l'État qui est pris en compte, qui est pris en charge par le gouvernement qui en répond devant le chef de l'État. Et c'est général. Aussi un problème. Parce que si on devait s'en tenir à la norme, le Premier ministre doit avoir son programme du gouvernement. Bien entendu, en concertation avec des chefs de l'État. Mais nous avons constaté que chez nous, c'est vraiment totalement le programme de campagne du chef de l'État qui devient le programme du gouvernement. Comme les cinq chantiers, comme la révolution de la modernité actuellement, etc. Et au point que dans l'exercice de ce programme de gouvernement, vous voyez plus les chefs de l'État. Il est sur tous les chantiers et parfois le Premier ministre recule. Et d'habitude, vous voyez, quand par exemple on parle de la non-organisation des élections, c'est les chefs de l'État qu'on voit tout de suite. Or, on devait avant tout regarder le gouvernement. Bien entendu, derrière le gouvernement, il y a la CENI qui doit devoir intervenir. Tout cela, c'est une déformation du fonctionnement des régimes.
Alors, comment trouvez-vous ce régime, le nôtre, ses failles et ses acquis?
Un chef de l'État qui a été élu au suffrage universel direct, il est difficile de l'enfermer dans une boîte. C'est ça qu'on doit devoir savoir. Le chef de l'État a été désigné par tout le monde. Il se sent responsabilisé. Et des fois, malheureusement, ce sentiment de responsabilité le pousse à aller au-delà de l'endroit où il doit s'arrêter. En fait, il doit rester dans l'ombre, en train de coordonner. Faites ceci pour mon programme ne s'abîme pas. Mais on constate qu'à cause de certaines défaillances des gouvernements successifs, on expose assez les chefs de l'État, qui est obligé de passer en première ligne, alors qu'il ne devrait pas apparaître le plus souvent. Et ça, c'est un défaut qui devrait être corrigé dans l'avenir du fonctionnement de nos institutions. Les chefs de l'État doivent être beaucoup plus modérés et plus en retrait qu'en face. Il doit justement laisser se noyer le Premier ministre et ses ministres.
Est-ce que ce n'est pas une fuite de responsabilité de la part des gouvernants qui veulent se cacher derrière le chef de l'État? Et on le voit même parfois quand ils vont inaugurer certaines actions sur le terrain, ils disent toujours sous l'impulsion du chef de l'État.
Mais en principe, puisque eux, ils ont adopté le programme du chef de l'État, ils sont obligés de dire un peu ça. C'est ce que j'ai critiqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un Premier ministre vraiment responsable devrait discuter avec le président de l'applicabilité du programme qu'il avait. et en répondre. Il ne doit pas se retrancher tout le temps derrière. Oh non, grâce à ceci, grâce à cela. On jette un peu le discrédit et puis c'est de la flatterie. Il faudrait que non seulement le gouvernement, mais aussi le Parlement.
Et là, le Parlement doit jouer son rôle.
Joue son rôle. C'est ici, par exemple, nous voyons, et en principe, compte tenu de notre régime, le gouvernement de la République répond de sa responsabilité devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, pour être concret. Mais on remarque parfois que ces ministres et les premiers ministres répondent plus de leurs responsabilités devant le chef de l'État que devant le Parlement. Oh, ils ne répondent pas d'une double responsabilité. En ce moment, nous serions dans un régime parlementaire dualiste qui n'existe plus dans les institutions modernes.
Nous recevons le constitutionnaliste Ambroise Kamukuni.
Sur le thème de la problématique des régimes politiques contemporains, avec Antoine Defond, le régime semi-présidentiel congolais, professeur, au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, quel est le meilleur régime politique en Afrique?
Mais vous savez, l'Afrique est en train de se découvrir tous les jours davantage. Et nous-mêmes, les chercheurs, nous sommes en train d'observer pour savoir quel est le meilleur système qui peut être en application en Afrique. Au lieu d'être toujours attaché à des limitations. Nous imitons, on prend des règles en cours en France, au Mali, au Sénégal, on met ensemble et on produit une constitution comme la nôtre de 229 pages. Mais nous pensons que ce qui intéresse les Africains et ce qui intéresse aussi ceux qui exploitent les Africains, c'est-à-dire les étrangers qui ont des intérêts au Congo, c'est la présidence de la République. Pourquoi la présidence de la République? Parce que le président de la République, c'est la clé de voûte du système. Je l'ai dit, il ne faut pas l'oublier. Alors, il est capable de protéger les intérêts de tout le monde. Et surtout qu'il est élu au suffrage universel direct et qu'il échappe à l'interpellation de qui que ce soit. Pour l'avenir, et nous sommes en train d'y travailler, nous pensons que le meilleur système pour l'Afrique, c'est là où le chef de l'État est élu au deuxième tour. Et vous voyez, même à l'étranger, au Congo, lorsqu'on parle, tout le monde est intéressé par l'élection présidentielle. Mais personne ne veut entendre des élections locales. Or, la démocratie, elle commence à la base. Mais notre démocratie qui commence au sommet, où est-ce que nous allons? Parce qu'on sait que dès qu'on a élu le chef de l'État, on baigne dans l'impunité pourvu qu'on soit autour du chef de l'État. On en tire les profits les plus substantiels et les étrangers qui nous côtoient sont plus à l'aise de collaborer avec le chef de l'État qui est tout puissant. Parce que le mode d'élection que nous mettons en place rend les hommes non seulement trop forts, mais aussi renforce l'impunité. Mais si il y avait, par exemple, que le leader du parti majoritaire au Parlement devienne automatiquement chef de l'État, il y a là comme conséquence, comme en Afrique du Sud, que ce président se sent surveillé par un groupe qui peut les destituer comme il l'avait désigné. C'est qui discipline les animateurs des institutions, de l'institution présidente de la République, qui peut non seulement détendre l'atmosphère, au lieu d'être tous branchés, ou d'abord l'élection du chef de l'État, d'abord parce que chacun va accéder à ce poste qui ouvre d'ailleurs la voie à toutes sortes d'avantages et qui met le chef de l'État dans une situation de convenance où il est appelé à tout faire. Et ça incite justement les chefs à tout faire. Parce que ce qui incite les chefs à tout faire et à même à mal faire, c'est pas lui. C'est-à-dire tout ce qui l'entoure. Donc pour nous, dans l'avenir, les Africains auraient pu penser à avoir un chef de l'État modéré qui viendrait d'une élection au second tour, qui consacre une certaine responsabilité du chef de l'État devant son corps électoral.
Nous allons conclure en nous résumant en ceci que vous nous avez entretenu sur le thème de la problématique des régimes politiques contemporains avec Antoine Defond, le régime semi-présidentiel congolais. Vous avez comparé un peu le régime présidentiel au régime parlementaire et le nôtre qui est semi-présidentiel, nous pouvons dire qu'il est hybride et vous avez relevé quelques failles de ces régimes. Nous avons le président qui a une certaine prééminence sur les institutions dans le cadre du Congo.
Bien sûr.
Nous avons des gouvernants qui se cachent derrière le président de la République.
Les membres du gouvernement, les premiers ministres en tête.
Oui.
Oui.
Au lieu d'assumer leurs responsabilités constitutionnelles. Vous avez noté aussi l'inféodation du pouvoir judiciaire qui n'exerce pas normalement son indépendance, ce qui met le pays de plus en plus en difficulté. Et vous avez conclu par un petit conseil, vous êtes en train de réfléchir sur le meilleur système adapté à l'Afrique ou bien à la RDC où on aurait un président de la République élu au deuxième tour. Donc, actuellement, dans le système semi-présidentiel, le président de la République est élu au suffrage universel et direct. Nous vous remercions. question, professeur. Si nous nous sommes trompés, nous vous laissons la liberté aussi de conclure.
Oui, la conclusion, c'est mes remerciements. C'est un sujet sur lequel on passe toujours en effleurant. Mais nous avons eu, je crois, grâce à vous, l'occasion de fixer les idées sur ce système. Mais par la suite, nous sommes disponibles. Votre résumé est tout à fait exact. Je ne peux que vous remercier.
Merci, professeur, d'avoir accepté cette invitation. Nous espérons vous recevoir encore au cours de nos prochaines émissions pour d'autres thèmes que vous allez aussi nous proposer.
Je vous remercie de la confiance.
Merci.
Notre émission est terminée. Elle a été produite par Jeff Ngoyi Mulonda sous la supervision de Ben Kabamba. Vous voulez y contribuer? Appelez-nous au numéro 081 89 0 69 88 ou 081 90 5000. Nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau magazine mardi prochain à la même heure. Et nous aborderons le thème relatif aux droits des manifestations publiques. Merci de nous avoir suivis.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.